Bienvenue à Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Ici, on explore, on questionne et on démystifie les réalités des communautés LGBTQ+, dans l'Est ontarien et ailleurs. À travers des discussions authentiques, on donne la parole à celles et ceux qui façonnent la diversité d'aujourd'hui. Dans cet épisode, Lise parle de santé mentale des jeunes LGBTQ+, avec Céleste, psychothérapeute.
Pour commencer, je pense que ça serait important d'expliquer c'est quoi la différence entre une psychothérapeute, une travailleuse sociale et un psychologue.
Oh oui, c'est une des questions que je reçois le plus souvent quand je parle des gens à propos de mon métier. Alors, en premier, on a les travailleurs sociaux qui ont fait un bac. Puis là, on a les travailleurs sociaux cliniques, qui, eux autres, ils ont fait une maîtrise. Alors, eux autres aussi sont capables de faire le métier de counseling ou de psychothérapie, mais c'est un parcours académique différent. Moi, j'ai fait une maîtrise en counseling spécifiquement pour devenir une psychothérapeute. Moi, je fais des plans de traitement, vraiment, je traite, soi-disant, le monde. Tandis que les psychologues, eux, ils ont fait leur doctorat. Eux autres, ils peuvent diagnostiquer les gens et prescrire de la médication dépendamment de la situation, de leur profession, etc. Alors moi, de mon côté, je ne peux pas diagnostiquer ou prescrire de la médication.
Quand tu dis que tu traites des personnes, qu'est-ce que tu veux dire par traiter quelqu'un?
Oui, alors la différence entre travailleur social et moi, c'est que le travailleur social est beaucoup plus accentué sur les supports communautaires, comme remettre la personne. C'est un appui un peu plus pour s'en remettre ses pieds. Alors, les travailleurs sociaux vont aider avec les finances, l'hébergement, etc. Moi, je suis vraiment juste côté santé mentale, point. Alors, on va avoir un plan de traitement. Quand, par exemple, quelqu'un vient me voir avec beaucoup d'anxiété, bon, ben, c'est quoi les étapes qu'on va poursuivre pour arriver à un point tel où ce que le client trouve que le niveau d'anxiété est correct.
Ben, tu sais, il y a pas juste l'anxiété, il existe plein d'autres choses. Et dans la communauté LGBTQ, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu fais, mettons, pour aider si quelqu'un, un coming out, ça a pas bien été?
Oh oui, très bonne question. Moi, mon approche, tu sais, je me base vraiment dans une théorie qui s'appelle Internal Family System. J'ai assez regardé le mot en français, puis même les Français en France utilisent ce mot-là. Alors, je n'aurai pas de traduction pour vous. Mais, en fait, moi, mon approche, c'est d'accueillir la personne, apprendre comment elle a été blessée par un coming out, soi-disant échoué, entre guillemets. Voir c'est quoi les supports, soit personnels de la personne, communautaire aussi. J'examine s'il y a un antécédent de santé mentale, comme... c'est des abus, la trouble de dépendance, etc. Et puis, c'est vraiment juste de créer un espace pour que la personne se sente à l'aise vraiment de s'exprimer dans une manière qui est authentique pour elle. Et ça, ça change vraiment de personne à personne.
Un travailleur social, un psychothérapeute ou un psychologue qui fait partie de la communauté queer, est-ce que ça va faire une différence pendant le traitement?
Ah oui. Oui. Je vois ce que tu dis là. Oui, parce que la majorité de mes clients, ben, je pense comme 97% d'eux sont queer eux-mêmes. Puis quand je leur demande, OK, ben, c'est quoi qui vous a intéressé à poursuivre avec moi? Ils disent tout, ah, parce que t'es queer. Alors, eux autres, ils ont, mais surtout mes clients, ont beaucoup plus de confiance en moi. Ils font confiance que je comprends plus leur expérience plutôt que d'avoir besoin de se justifier en avant de quelqu'un d'autre qui peut-être n'a pas eu ce background-là. Comme par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes que pour eux, recevoir quelqu'un qui se dit non-binaire, c'est comme « Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis moi, quand les gens me disent « Ah, oh, je suis non-binaire », eux autres sont plus confortables à croire que « Ben, je comprends. » Et puis les questions que je vais poser vont être plus accentuées à décrire c'est quoi leur expérience des non-binaires plutôt que moi-même assumer que je sais tout à propos de leur expérience.
On a parlé de l'encadrement pour une personne non-binaire. C'est quoi l'encadrement pour une personne qui a fait une transition de genre?
Ben, pas mal la même affaire que tout le monde d'autre, j'avoue.
OK, il n'y a pas rien de spécifique?
Mais si tu demanderais à un autre professionnel, peut-être qu'il y aurait une différence. une réponse différente. Moi, personnellement, je traite tout le monde quasiment la même manière, Puis la seule différence, c'est que je me rends plus humble envers les gens que je reconnais ont un parcours différent. Et puis, moi, je focus vraiment sur les transitions de vie. Alors, étranger, c'est sûr que c'est une transition. De manière générale, j'utilise la théorie qu'on fait partie de... On est la somme de plusieurs parties. Alors, OK, oui, on peut avoir le soi, par exemple, qui est transgenre, une personne qui peut devenir une femme ou un homme. Et puis, il va y avoir plusieurs parties dans la personne qui dit « Ah non, c'est dangereux, on peut pas faire un comment. » Ou une autre partie qui va dire « Ben, fais-le. » Alors, je sais pas si je posais du sacré ou non, mais fais-le. Puis, c'est tout. Là. On sent des autres. Et puis, c'est un peu cette bagarre que je vois dans les personnes trans parce que il y a l'aspect sécurité, mais il y a aussi l'aspect vivre authentiquement. Et ouais, c'est l'enjeu le plus fréquent que je vois avec les gens transgenres.
Mais c'est intéressant. Puis là, tu sais, tu parles comme ça, c'est du monde qui veut se sentir en sécurité, mais quand ils ont aussi le goût de vivre leur vie à 10 000%. Est-ce que, mettons que on y va avec une personne qui est homosexuelle, y a-tu un point de vue comme ça aussi?
Ben oui, certain. Puis chaque personne qui fait partie de la communauté queer va vivre un certain chaos interne de est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas?
OK. Un chaos interne. Puis ce chaos-là, toi, quand tu es avec des patients, est-ce que tu traites ce chaos-là? Est-ce que tu essaies de l'encadrer?
Oui, 100%. C'est le centre de mon travail avec mes clients. Moi, j'adore le chaos, là, un peu. C'est pour ça que je suis rentrée dans ce job-là. Mais c'est ça. Moi, j'adore le chaos. Je décortique. On apprend à le connaître. On regarde c'est quoi les peurs. On regarde c'est quoi... les espoirs, les dangers, etc. Et puis, c'est en fait, mon but avec mes clients, c'est d'arriver à un point tel où que la personne ne se sent pas noyée par ses parties. Elle est capable de prendre une décision qui est vraiment centrée sur soi. Et la personne peut écouter les différentes parties et prendre ce qu'ils lui disent en considération, mais en bout de ligne, c'est vraiment le soi de la personne qui prend la décision, elle est authentique.
OK, parce que j'avais manqué clairement la partie chaos. Moi, j'avais compris au début que tu t'assieds avec quelqu'un puis que tu y parlais vraiment. Je pensais pas que c'était si chaotique que ça, mais c'est intéressant justement de le comprendre. Et là, tu as parlé de plein d'affaires que tu fais avec eux. Tu parlais d'espoir. C'est quoi les espoirs que tu vois puis que tu parles de dans ton travail?
Oui, ben ok, oui. Là, faut que je pense à mes mots pour pas trop parler parce que sinon, là, t'as demandé mon côté nœud de sortir là. La majorité des espoirs que j'entends parler, c'est vouloir vivre authentiquement, être accepté, être respecté aussi là au minimum, être reconnu pour la personne qui se décrive être. Et puis d'avoir de la curiosité, être capable de vivre leur vie pleinement. Je peux dire ça très succinctement.
Puis est-ce que comme tu pourrais leur donner comme des exercices, tu sais, je compare ça, mettons, à la physiothérapie pour regagner comme le contrôle de certains muscles qui te donnent des exercices. Est-ce que tu donnes des exercices pour avoir le contrôle et se diriger vers son rêve, son espoir?
Mais c'est sûr qu'en thérapie, celui que j'utilise, il n'y a pas tant d'exercices en tant que devoir, tu sais. Mais souvent, les exercices, c'est tourne-toi vers tes parties. Apprends à les connaître. Parle-leur. C'est une mini-personne 3D dans toi. Puis, apprends, c'est ça, c'est quoi ses peurs, ses espoirs. Puis, au fur et à mesure du temps, tu vas voir que les parties, à force de te connaître, ils vont relaxer un peu, puis tu vas te sentir moins, débordé. Par eux. Alors, tu es capable de prendre des décisions un peu plus éclairées et calmes. Mais c'est sûr que si vous avez vraiment besoin de quelque chose d'immédiat, pratique, moi, j'adore toujours l'exercice 5-4-3-2-1.
C'est quoi cet exercice-là?
Oui, pas de problème. Mais en fait, c'est un exercice pour convaincre le cerveau que tu n'es plus dans le mode fight or flight. Et puis, c'est pour envoyer des hormones à ton cerveau pour dire, ah, en fait, on est dans le repos et la digestion. Alors, ça engage les cinq sens. Et je vous encourage aussi que le plus de détails que vous ajoutez aux choses, le mieux que c'est. Alors, c'est cinq choses que vous pouvez regarder, de les énumérer. Ensuite, quatre choses que vous pouvez toucher. Trois choses que vous pouvez entendre. Deux choses que vous pouvez sentir. Et une chose que vous pouvez goûter. Si jamais vous n'avez pas une chandelle à côté, mettez un petit spritz de parfum, n'importe quoi. Puis allez vraiment en détail de décrire c'est quoi la sensation.
Céleste, tu me parlais, tu sais, que tu faisais partie de la communauté. Toi, mm-hmm. si tu avais rencontré une psychothérapeute plus jeune et que tu avais consulté, qu'est-ce que tu aurais aimé te mm-hmm. faire dire ou comme, j'allais dire, comme te faire faire comme des exercices comme ça, mais ouais. Je suis pas sûre que c'est logique.
Attends, laisse-moi penser à ta question. Si j'aurais consulté lorsque j'aurais été plus jeune, est-ce qu'il m'aurait été bénéfice, genre?
Exactement.
Ouais. Mm. Oui, OK, ouais. Genre...
Parce que tout le monde vit des seulement situations différentes. Oh, excuse.
C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Seulement toi peux te questionner. Les gens peuvent poser des questions, oui, mais c'est seulement toi qui peux dire « Non, je suis comme ça ». Et aussi avoir beaucoup de patience avec toi-même. Comprendre que le genre, la sexualité, n'importe quoi, c'est flexible aussi. Il va y avoir des événements dans ta vie qui vont peut-être déboucher quelque chose d'autre. Et juste d'être ouvert à ça. Et juste parce que, disons, dans le temps, moi, je m'identifiais comme ce genre seulement bisexuel. Au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé, c'est comme un peu plus pansexuel et non binaire, mais aussi que ça veut dire, tu sais, avoir beaucoup de gentillesse avec toi-même, parce que c'est pas supposé là, d'être une réponse là, immédiate. Non, t'as pas assez fait de réflexion, genre.
Tu sais, c'est une recherche de toi-même que tu fais sur le long, puis ça, t'aurais aimé ça qu'on te le dise et que t'attendes pas de claquer des doigts pour que ça vienne.
Exactement.
Puis, tu sais, justement, comme tu parles de pas comprendre une personne qui a de la famille qui comprend pas. Ce que tu vas lui dire de faire, ça va être quoi?
Ben, c'est sûr qu'au début, on veut que les gens essayent un peu plus d'expliquer ce que ça veut dire, que ça veut dire pour la relation aussi, parent-enfant, ou même ma tante, cousin, cousine. Mais en bout de ligne, si le jeune ou la personne qui essaie de faire un coming out voit que tu sais, ça aboutit quasiment à rien, puis ils sont vraiment en train d'utiliser leur énergie pour essayer de comme non, mais tu comprends pas, c'est comme je veux que tu m'aimes quand même. C'est extrêmement difficile à dire pour moi, juste de manière comme ça, là, mais avec la thérapie, c'est en fait de tourner l'énergie de la personne envers les choses que premièrement ils peuvent contrôler. Mais c'est aussi de vraiment s'assumer dans ses limites. En anglais, on dirait « boundaries ».
Oui, mais t'avais le bon mot en français.
Oui, parfait. Puis c'est ça, c'est écoute tes propres limites. Et si tu vois que ça commence à déraper dans une manière que tu n'aimes pas, apprends à imaginer ce serait quoi la conséquence. Si maman, papa réagit, me traite de telle manière, c'est quoi ma limite à ça et c'est quoi la conséquence? Et il faut que tu sois prête là, à mettre la conséquence, mais il faut quand même que tu l'enforces la conséquence. Et ça, c'est difficile, surtout si tu es dans la situation enfant-parent, parce que c'est peut-être que vous êtes encore à la maison, n'importe quoi. Je recommande de le dire à des proches aussi, peut-être avant de le dire aux parents. Souvent, les amis, c'est quelqu'un qui sont plus à l'affût de comment tu passes de jour au jour. Si jamais tu penses qu'il pourrait avoir une réaction négative, et quelqu'un sur backup qui sait que si jamais ça part en n'importe quoi, là, au moins, t'as quelqu'un pour venir te chercher, te sortir de là, puis t'as déjà un sac pour sortir et tout.
OK. Oh, excuse. Ouais, vas-y. Non, toi, vas-y.
OK. Si jamais, OK, t'es vraiment pas capable de sortir de la situation, là... Ouais, c'est dur. Vraiment, concentre-toi à te protéger. Ton développement personnel va venir après, ce qui est très malheureux à dire, mais il faut que tu te protèges parce que ta vie, elle est importante. Et c'est ça que les gens là, queer, surtout transgenres, sont beaucoup plus à risque de violence, surtout à la maison, de leurs proches. Ils sont plus propices à se faire de la violence des gens qui sont proches. Et aussi, ils sont beaucoup plus à risque de faire des tentatives de suicide.
Comment toi, tu encordes ça? Parce que je pense que c'est important de savoir comment se sortir de ça. Que tu sais, puis les conseils ici vont être importants par la suite pour d'autres personnes.
Mm-hmm. Numéro un, si tu commences à avoir des pensées noires, parle à quelqu'un, que ça soit ton toutou, que ça soit n'importe qui, là, vraiment parle à n'importe qui. Ta communauté, c'est pas juste les personnes qui te connaissent en profondeur, mais c'est peut-être ton voisin au bout de la rue que, ah, un jour tu vois qu'il y a le Pride flag sur la bâtisse, puis tu dis, ah, OK. C'est comme, malgré que tu n'es pas toutes les personnes dans ton entourage, elle est là pour toi, au moins, sache que tu peux quand même élargir ce cercle. Il y a plusieurs lignes de crise que tu peux appeler ou même texter. Il y a du clavardage en ligne pour la santé mentale des gens trans et queer. En thérapie en tant que telle, c'est d'avoir des techniques de relaxation, des techniques pour la respiration, vraiment revenir dans son corps, arrêter la spirale, avoir comment est-ce qu'on dit en français, là? Emergency contact.
Un contact d'urgence.
Oui, voilà, contact d'urgence. Et puis vraiment, c'est d'essayer des techniques pour se relaxer. Et parfois, c'est pas les mêmes qui vont aider dans telle ou telle situation. J'essaie de penser quoi d'autre que je fais spécifiquement, mais ouais, c'est vraiment d'être entouré. C'est ça le numéro un. Puis si la personne n'est pas capable d'être entourée, c'est là ça devient plus difficile à gérer parce qu'il n'y a personne qui se rend compte de comment la personne rentre dans le trou.
OK. Puis, mettons, là, tu sais, on a parlé de conseils, on a abordé plusieurs points, comment c'est difficile pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois en particulier dans la santé mentale que tu trouves peut-être pas inquiétantes, mais importantes de parler d'eux parce que c'est le monde sont pas assez au courant?
Qui est un thème qui revient vraiment, c'est le sentiment de ne pas appartenir à un groupe, à quelqu'un, n'importe qui.
Okay.
Et ça, je vois ça, c'est cause numéro un. OK, je ne dis pas de manière scientifique, là, mais dans mes clients, à l'anecdote, cause numéro un, la dépression, puis c'est ça qui rend plus difficile parce que si tu te sens aliéné, c'est que tu n'es pas aimé, c'est que tu es bizarre, qu'il y a personne qui veut de toi. Et même si personnellement, tu sais, comme toi, ça te, pas toi forcément Lise, là, mais quelqu'un qui écoute ça, puis ça te dégoûte de savoir que XY est en train de se passer. Au moins, sois là pour la sécurité, minimum.
Est-ce que tu aimerais parler d'une autre expérience, un cas en particulier, où quelque chose d'autre que tu trouves vraiment important que j'aurais oublié?
Je pense de manière générale. Ah, ben, si tu es quelqu'un qui veut supporter quelqu'un en train de faire un coming out, tu te sens un peu qu'est-ce que je fais là?
Ah, mais c'est important ça!
Ouais, c'est ça. Inquiète-toi pas, tu sais. Comme j'ai mentionné plus tôt, sois curieux. Rappelle-toi que ce moment-là n'est pas à toi. Le moment est pour la personne qui est en train d'essayer de faire son coming out, qui essaie de se trouver, en fait. Montre-lui que tu l'aimes, numéro un aussi, même si tu ne comprends pas. Puis tu peux le dire, ça. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, mais tu es quand même mon enfant, mon ami, blablabla. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe, puis si je suis inquiet ou inquiète, que peut-être tu es en train de vivre avec ça toute seule. C'est ça, surtout les gens qui sont en train de se questionner, ils font souvent ce questionnement-là tout seuls parce qu'ils ont peur de « Ah ben si je m'étiquette mal, etc. » Alors, invite la personne à venir te parler de leur questionnement à voix haute. Souvent, parler à voix haute, là, ça aide tellement plus. Si jamais la personne veut faire des changements dans son vestiaire, dans le maquillage, dans la manière de s'exprimer, peut-être la tonalité de voix ou la manière qu'elle marche, faites-le avec. Montre ton support en allant faire du shopping ou laisse le ou la et elle aller dans ton garde-robe pour essayer des choses. T'sais. C'est vraiment juste de montrer que c'est correct, qu'on n'a pas toutes les réponses.
OK. Puis, tu sais, justement, tu parlais de chercher le maquillage, le linge et tout. Justement, tu sais, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui est gênant en public.
Mm-hmm.
C'est quoi le mot d'encouragement que tu irais dire à quelqu'un, justement, qui s'essaye en changement?
Ouais. Il y a comme un terme dans la communauté queer, où surtout quand t'es transgenre, c'est que tu viens à ta deuxième puberté. La puberté, c'est jamais smooth. C'est quasiment toujours cringe. C'est correct. Oh ça non. Veut dire que t'es en train de faire ton changement. Tu le fais et sois fier que t'es en train de le faire parce que tu le veux. Et puis, oui, ok, c'est ton style, ton maquillage va pas être top-notch dès le début, mais tu vas y arriver. Et c'est rien de la pratique, cette affaire-là.
OK. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça se retrouve dans ta tête. C'est ça, Céleste? C'est tout ça, c'est dans ta tête?
Mm-hmm.
Fait que,
mm-hmm.
si on peut, mettons, finir ça en faisant une grosse parenthèse, c'est que tout se passe dans ta tête, tes émotions, les changements, ton humeur, c'est relié ensemble, puis il y a des étapes par lesquelles tu vas être obligé de passer, puis il y a des façons de passer au travers.
100%. Si tu as de l'espoir, tu vas être capable d'atteindre tous les buts que tu veux.
Fréquence Diversité, un balado de GoFM rendu possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire.